Les voix de l'égalité. Aujourd'hui, nous rencontrons Sylvie Bréchenad, présidente de l'association Sources Vives de l'Isle-Adam, une organisation engagée dans l'accompagnement des enfants atteints de cancer ou de leucémie, ainsi que de leurs familles. Grâce à une maison d'accueil, à un réseau de bénévoles et à l'intervention de professionnels tels que des psychologues ou des art-thérapeutes, l'association offre un soutien précieux aux familles confrontées à la maladie. Elle agit également auprès des écoles et des enseignants afin de faciliter la scolarité des enfants malades. À travers cette interview, nous allons découvrir les actions de l'association, son engagement et l'impact de son travail auprès des familles. Madame, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, qu'est-ce qui vous a personnellement donné envie de vous engager dans cette association ?
Alors, c'est un événement personnel. Il y a de nombreuses années, donc un de mes enfants a été atteint donc d'une tumeur cancéreuse à la naissance. Voilà, donc ça m'a sensibilisée, bien sûr, à rencontrer beaucoup de familles sur le lieu. Sur le lieu de soins et apercevoir toutes les difficultés que rencontraient ces familles et nous-mêmes. Voilà, donc c'est vraiment parti d'un engagement personnel.
Quel type d'accompagnement proposez-vous aux enfants atteints de cancer ou de leucémie et à leurs familles ?
Alors, on a donc à l'Isle-Adam ce qu'on appelle une maison d'accueil, donc un lieu de rencontre qui fonctionne tous les week-ends, qui permet d'accueillir des familles de tout le département du Val-d'Oise et même du département limitrophe de l'Oise ou des Yvelines. Et dans ce lieu de rencontre, donc, il y a de nombreuses activités qui sont proposées, des professionnels, des bénévoles. Voilà. Et il y a également, en dehors de ce lieu, des sorties, des fêtes qui sont organisées pour les enfants, leur fratrie et leur famille.
Alors, c'est une maison d'accueil qui s'ouvre le week-end. Vous accueillez combien de familles dans l'année ?
Alors, on a dans l'année à peu près 40-45 familles, donc une fois de plus du département du Val-d'Oise et des départements limitrophes. Et à chaque horaire d'ouverture, à chaque week-end, on a à peu près entre 3 et 4 familles qui viennent nous rendre visite. Et ensuite, il y a bien sûr en semaine également des consultations privées de psychologues qui sont gratuites pour les familles, que ce soit des enfants malades ou que ce soit des enfants en rémission ou des frères, des sœurs ou des parents. Toutes ces consultations sont gratuites pour elles.
C'est délicat, hein. Là on parle d'enfants malades. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on y retrouve concrètement dans la maison ? On peut retrouver la psychologue. Est-ce qu'il y a un coin jeu pour eux ?
Oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a deux psychologues en fait qui se relayent chaque week-end ou en semaine s'il y a des consultations privées. Il y a un atelier donc avec une art-thérapeute qui anime cet atelier. Ça veut dire, ça peut être un atelier où l'on y fait de la peinture, des créations graphiques, de la sculpture ou autre chose, ou préparer des décors également quand on organise des fêtes. Et cet atelier donc est animé par l'art thérapeute pour les enfants, mais ça peut être aussi pour une famille ou pour des parents.
Il y a également des éducateurs sportifs ?
Oui, oui, oui. Il y a un éducateur sportif, donc un coach sportif, qui vient régulièrement, qui anime donc des jeux sportifs adaptés aux enfants. Ça veut dire, tout confondu, les fratries, les enfants malades. S'il y a un enfant malade qui a des difficultés à se mouvoir, à se déplacer ou qui est très fatigué, l'éducateur sportif donc fait en sorte que le jeu soit accessible pour tous. Donc tout le monde est au même niveau et c'est très important pour ces enfants de pouvoir justement participer parce qu'ils sont souvent, ils ont une éviction scolaire, ils ne peuvent plus aller à l'école du fait de leur traitement, mais ils ne peuvent plus participer donc à toutes leurs activités sportives, culturelles, habituelles. Donc c'est très important ce lieu.
Oui. Vous accompagnez les enfants avec leur famille. Est-ce qu'il y a un accompagnement individuel ? Ou c'est groupé, c'est l'enfant et ses parents, ses frères et sœurs. Ou est-ce que les parents peuvent venir vous voir et être accompagnés séparément,
par exemple ? Oui, tout à fait. Alors, bon, généralement, bien évidemment, c'est un lieu qui est offert à toute la famille pour prendre un temps de pause, pour se poser, pour se reposer, pour s'amuser, parce que les enfants, malgré les événements, sont des enfants qui ont envie de s'amuser, de se détendre, d'exprimer aussi leurs sentiments, leurs sensations, par exemple à travers les activités qu'on a nommées, c'est-à-dire l'art thérapie, le sport. Mais les parents, si les parents le souhaitent, bien évidemment, ils peuvent venir aussi tout seuls. Donc c'est vraiment, quelle que soit la demande, que ce soit pour des enfants malades en soins, pour la fratrie, pour les parents, la maison d'accueil est ouverte. Donc les familles reçoivent chaque fin de mois un planning des temps de rencontre prévu pour le mois suivant. Donc tout le monde est informé de quand ils peuvent venir selon leurs souhaits, leur disponibilité et surtout l'état de santé de l'enfant, bien sûr.
Et l'accompagnement se fait sur combien de temps ?
Oh, l'accompagnement peut se faire sur de nombreux mois, voire de nombreuses années, parce qu'un traitement, un soin pour un cancer ou une leucémie dure au moins un an, voire deux ou trois ans, sachant que, comme on est toujours, les enfants sont fragiles, ils peuvent éventuellement quelquefois rechuter de leur maladie, donc les médecins généralement demandent au moins cinq années de surveillance avant de pouvoir dire que l'enfant est guéri. Donc il y a toujours ce poids, cette chape d'anxiété sur les familles, donc on peut effectivement avoir des familles qui viennent de nombreuses années et les anciens qui peuvent revenir pour retrouver l'équipe lors de fêtes ou d'activités ludiques.
Comment fonctionne votre réseau de bénévoles? Est-ce que vous en avez beaucoup?
Oui, alors actuellement nous avons 25 bénévoles, donc les bénévoles en fait ne peuvent pas rentrer à Source Vive comme ça. Ça veut dire qu'il y a deux rencontres qui se font, qui sont proposées à chaque personne qui souhaite être bénévole. Une première rencontre avec moi et une deuxième rencontre avec la psychologue de l'association. Et au bout de ces deux rencontres, en fait, on détermine si la personne est apte à devenir bénévole ou pas. Et lors de son introduction, elle va avoir la possibilité de choisir une marraine ou un parrain, c'est-à-dire une personne bénévole qui est en place depuis plusieurs mois ou plusieurs années, qui va pouvoir l'accompagner, donc elle ne sera pas toute seule. Et surtout, il y aura des formations qui seront proposées par la psychologue et des temps de réunion. Donc les bénévoles sont très bien encadrés dès lors qu'elles sont acceptées dans l'équipe de Source Vive.
Et est-ce que donc les bénévoles interviennent en milieu hospitalier ?
Oui. Alors les bénévoles interviennent, la plupart interviennent lors de ces temps de rencontres et d'échanges avec les familles le week-end. Donc en général, il y a 3-4 bénévoles pour chaque permanence. Mais sur l'ensemble des bénévoles, sur les 25 bénévoles, 4 d'entre elles ont été formées particulièrement pour aller en hôpital et en l'occurrence dans l'hôpital de Pontoise, dans ce qu'on appelle le service hôpital de jour, c'est-à-dire c'est un service dans lequel les enfants arrivent le matin, ils ont un certain nombre d'examens qui leur sont proposés, ils reçoivent leur thérapie, donc une chimiothérapie, et ils repartent généralement en fin de journée. Et c'est dans ce temps-là que nos 4 bénévoles vont chaque semaine rencontrer les familles, rencontrer les enfants.
Donc, ils entament des discussions, des jeux, comment ça se passe ?
Oui, alors donc, de toute façon, la première des choses, c'est de se présenter, de rencontrer les parents, les accompagnants, les enfants, de lister leurs besoins, quels sont leurs besoins, est-ce que ce sont des besoins d'accompagnement scolaire, est-ce que ce sont des besoins psychologiques, est-ce que c'est participer à des actions ludiques, voilà, bon, différentes actions sont ciblés par les bénévoles. Et pendant cet entretien, lorsqu'il y a un accompagnement, lorsqu'il y a un accompagnant qui est là, souvent l'un des bénévoles va discuter avec l'accompagnant et un autre va jouer avec l'enfant. Mais le but, c'est vraiment de lister les difficultés, les problèmes et de pouvoir proposer éventuellement des aides selon nos critères d'activité, quoi.
Vous intervenez en milieu scolaire ?
Alors, en milieu scolaire, nous intervenions en milieu scolaire, oui. En fait, le milieu scolaire est un milieu qui est extrêmement sensible. Ça veut dire que les enseignants qui accompagnent des élèves malades, d'abord ne sont pas forcément au courant des pathologies. Donc première des choses, c'est informer les enseignants. Deuxième des choses, c'est les soutenir, parce que quelquefois les étapes de la maladie peuvent être difficiles. Et troisième des choses, c'est faire en sorte que tous les moyens soient développés pour que lors de son retour en classe ou pendant la maladie à domicile, que l'enfant puisse être accompagné. Alors il y a quelques années, dès le départ de Sources Vives en 1990, on a été confronté justement à cette grande angoisse des parents et des enfants de la poursuite de la scolarité. C'était vraiment un sujet très important et on avait édité à cette époque une revue qui est toujours à disposition, qui est gratuite, qui s'appelle « L'école pour l'enfant atteint de cancer ». Donc on a été tout de suite sensibilisé par ça. On a une de nos psychologues qui est intervenue durant de nombreuses années dans le cadre de l'inspection académique du Val d'Oise pour animer des réunions avec les enseignants qui étaient angoissés ou qui étaient confrontés à certaines problématiques. Et là, maintenant, en fait, nous sommes en lien avec un service de l'inspection académique qui s'appelle l'APAD, l'accompagnement pédagogique à l'hôpital, à l'école et à domicile. Et la responsable de l'APAD nous rencontre à peu près tous les 3 mois. On fait un point sur la scolarité des enfants, sur leurs besoins. Et elle, cette coordinatrice, fait en sorte de pouvoir trouver éventuellement des enseignants qui aillent à domicile, si c'est le cas, et de donner toutes les informations nécessaires pour que les modalités soient prises dans les établissements scolaires afin que les enfants ne soient pas perdus. Donc c'est un lien qui est très important et l'on fait partie également d'une union, l'union d'hospitalisation d'hématologie, oncologie pédiatrique en Île-de-France. Et là encore, nous sommes en lien avec cette union, avec une coordinatrice qui peut intervenir dans les établissements scolaires lorsqu'il y a une problématique particulière. Et bien évidemment, nous restons, nous, à disposition des enseignants qui le souhaitent. Donc on a un numéro de téléphone, les enseignants peuvent nous contacter, c'est le 06 83 60 31 86. Et donc voilà, on peut répondre à toute demande, surtout si un enseignant nous contacte, qu'il laisse un message de façon à ce que je puisse lui répondre dès que possible.
J'imagine que il y a pas mal de défis pour la scolarité d'un enfant atteint de cancer. Est-ce que la démarche est simple pour être accompagnée par Sources Vives?
Alors, la démarche est simple. On va dire que la démarche n'est pas toujours simple, mais on a des interlocuteurs, comme je vous l'ai dit, à l'inspection académique, dans ce réseau d'oncologie pédiatrique, des intervenants qui peuvent accompagner les enseignants et qui peuvent permettre, en fait, ça c'est très important, que des outils soient mis à disposition des enfants. En général, lorsqu'un enfant a été diagnostiqué comme étant atteint d'un cancer ou d'une leucémie, bien évidemment, les parents vont prendre contact avec l'établissement scolaire pour signifier au chef d'établissement, à l'enseignant principal, la pathologie de l'enfant, de l'élève. Et à ce moment-là, nous, dès lors que nous savons également qu'il y a ce problème-là, nous nous mettons en coordination avec l'inspection académique pour qu'une réunion soit très vite organisée au niveau de l'établissement scolaire, voir ce dont l'enfant a besoin, quels sont les outils qu'il faut mettre en place, peut-être quelles sont les aides pédagogiques qu'il faut apporter à domicile ou dans le cadre scolaire. Voilà, il y a différentes modalités dont il faut parler. C'est très important de pouvoir communiquer avec le monde de l'enseignement. Donc nous pouvons intervenir dans l'établissement, mais il y a des réseaux qui sont sensibilisés pour le faire d'emblée. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les enfants, dès lors qu'ils sont malheureusement déscolarisés pendant le temps de leur traitement, ne sont pas abandonnés. l'APAD, ce service de l'inspection académique, intervient généralement très rapidement. Il faut ensuite trouver les enseignants volontaires pour intervenir auprès de l'enfant. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais tout est bien cadré, en fait, au niveau du Val-d'Oise. Et en général, ça se met en place très rapidement. Et l'enfant qui ne peut pas retourner à l'école, bien souvent, étant accompagné à domicile ou dans des temps scolaires autres que les temps normaux, peut tout à fait suivre sa scolarité et ne pas perdre son année. Et ça, c'est important que les parents le sachent. Voilà, il y a suffisamment d'angoisse par rapport à cet événement de cancer ou de leucémie, mais il faut savoir qu'il y a des réseaux qui existent. Il faut pouvoir faire appel à ces réseaux, et si la famille n'ose pas, elle peut faire appel à nous, et nous intervenons auprès de ces réseaux. Donc c'est important, en tout cas, de communiquer pour ne pas rester tout seul.
Aujourd'hui, quels sont les projets ou objectifs de l'association pour les prochaines années ?
Alors, bien sûr, les projets, d'abord pour les familles, pour les enfants, c'est de continuer de les accompagner, de diversifier nos actions. Alors, il y a ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui se passe à la maison d'accueil, les ateliers, ça va persister, l'éducation sportive, ça va persister, l'aide psychologique, mais il y a également tout ce qu'on organise à l'extérieur. Par exemple, il y a une journée, ça fait 4 ans maintenant qu'on l'organise, ça plaît énormément aux enfants, et c'est une journée qui se fait en fait à l'extérieur de Sources Vives, une journée moto. On a une association de 35 à 40 motards qui viennent promener dans le Vexin les enfants.
Oh, c'est fabuleux ça, c'est merveilleux.
Oui, les enfants malades, les fratries, les parents aussi, mm-hmm. Et donc c'est toute une matinée dans le Vexin, avec à chaque fois une escale. Ça peut être, l'an dernier c'était l'aérodrome de Berne-sur-Oise, cette année ce sera une écurie qui se trouve dans l'Oise. Voilà, c'est important de pouvoir avoir cet échange avec les familles, de pouvoir s'évader. Voilà, c'est la grande aventure. Et puis on se retrouve ensuite pour déjeuner tous ensemble dans une grande prairie proche de la forêt de l'Isle-Adam, et l'après-midi ce sont des jeux dans cette prairie. C'est un archer qui vient bénévolement entraîner les enfants. Voilà. Ça fait partie d'un des projets que nous continuerons à mener. Mais il y a également des nouveaux projets. On a pris contact avec des clubs sportifs. Par exemple, le club sportif de rugby de l'Isle-Adam, qui voudrait proposer une initiation, alors tout en douceur bien évidemment, une initiation au rugby. Voilà, donc il y a différents partenaires locaux, et j'espère qu'il y en aura peut-être à Persan, pourquoi pas, qui prennent contact avec nous et qui permettent à ces enfants qui sont vraiment dans une problématique longue et douloureuse et d'isolement, de pouvoir échanger, de pouvoir vivre des choses un peu extraordinaires. Donc on a très à cœur de continuer tout ça, oui.
Comment les personnes qui le souhaitent peuvent-elles soutenir Sources Vives dans le bénévolat, des dons
Alors, dans le bénévolat, bien sûr, là pour l'instant nous sommes 25, donc j'ai envie de dire que l'équipe est au complet, mais chaque année vers le mois de septembre, s'il y a éventuellement des bénévoles qui partent pour déménagement ou pour en raison personnelle, professionnelle ou éventuellement je dirais une grossesse ou quelque chose comme ça, oui, on peut recruter d'autres bénévoles selon les critères dont je vous ai parlé. Sinon, bien évidemment, ça n'est pas anodin. On a besoin, bien sûr, de financement. Donc, si une personne veut adhérer ou donner un don à l'association ou fait partie d'une société qui accepterait de faire un don, sachant que les dons sont déductibles des impôts à 66%, c'est important pour nous. C'est la vie de Sources Vives qui dépend de tout ça. Et puis aussi, voilà, s'il y a des personnes qui écoutent votre radio, qui font partie de chorales ou qui font partie de spectacles, ou de clubs sportifs et qui veulent éventuellement dédier un moment de ce temps sportif ou culturel pour venir en aide de façon caritative à Sources Vives, bien sûr, c'est toujours avec un immense plaisir. Pour ça, peut-être, il faut que je vous rappelle le site de Sources Vives. Ça permet déjà aux auditeurs de pouvoir se renseigner sur ce que l'on fait et éventuellement donc de faire un don. Et donc le site, c'est www.source au singulier-vives.org. le-du-6-vive.org. Voilà, en tout cas, merci à l'avance pour ceux qui pourront nous aider à continuer. Oui, c'est important pour nous tous.
Et puis pour terminer, quel message aimeriez-vous adresser aux familles qui vivent actuellement la maladie d'un enfant ?
Alors le message, c'est que bien évidemment, il faut toujours garder l'espoir parce que maintenant, la plupart vraiment, et je n'aime pas donner de statistiques, parce que quand on est confronté à ce problème-là, on est vraiment, vraiment dedans, dans la problématique. Mais il faut savoir que le traitement vers la guérison est long, certes, ça peut être 1 an, 2, 3, mais en tout cas, il est là. Hein, au bout du chemin, il y a la guérison possible, mais savoir que malgré tous les événements qui peuvent être douloureux, difficiles, la réorganisation des rythmes familiaux aussi, parce que c'est un grand bouleversement familial, il faut savoir que bon, ça sera quand même plus tard, lorsque la famille aura dépassé cet événement-là, ça sera aussi des souvenirs de belles rencontres, des souvenirs de moments heureux, des souvenirs de soutien chaleureux. Voilà. Donc il faut partir avec cette optique-là. Faut surtout pas, dans la mesure du possible, sauf si on est bien accompagné par sa famille, bien sûr, surtout pas rester isolé. C'est trop difficile d'avoir cette épreuve-là devant soi. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités d'être aidé. Bien évidemment, moi, je suis là à votre... je suis là devant votre micro et c'est pour dire aussi que les familles confrontées peuvent nous contacter. Donc, je vous ai donné le numéro de téléphone. Surtout, n'hésitez pas. Laissez un message et avec grand plaisir, nous prendrons contact avec vous.
Madame Brichnad, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je pense que nos auditeurs comprennent mieux le rôle essentiel que joue l'association Sources Vives. Merci.
Merci à vous.
En proposant un soutien psychologique, des activités adaptées et un accompagnement scolaire, cette association contribue à améliorer le quotidien des enfants et à rompre l'isolement que peuvent ressentir les familles. Son engagement porté par des professionnels et de nombreux bénévoles montre l'importance de la solidarité face à la maladie. C'est une action précieuse qui rappelle combien l'entraide et l'accompagnement peuvent faire la différence dans des moments difficiles. Bien entendu, ceci n'était qu'une expérience sonore. Les voix de l'égalité.